disais que ça s'applique aussi à la parole de Dieu. Et c'est vrai qu'on plusieurs fois il est dit de rien ajouter ni de retrancher à la parole de Dieu. Et lorsqu'on ajoute à la parole de Dieu la philosophie, la psychologie, la science, les dernières modes, on est un peu comme les enfants d'Israël qui en avaient ras-le-bol de la manne céleste. Et pourtant, il y avait tout ce qu'il fallait dans la manne. Donc, pas de mélange, nous dit la parole. Ensuite, il est question, à partir du verset 13, du mariage, de la pureté de la vie conjugale. Il est question de vérifier qu'une jeune mariée est encore vierge ou non. Sachant que si une jeune fille n'était pas vierge au moment de son mariage, elle pouvait être mise à mort. Ça nous paraît radical, mais à plusieurs reprises, on y reviendra, tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi, verset 24. Donc c'était la prohibition aussi de l'inceste, verset 30. Nul ne prendra la femme de son père. En plus, quand on connaît le Deutéronome, on comprend mieux le reste, même de l'Ancien Testament. On voit en particulier ce que le fils de David avait fait. En contradiction directe avec ce verset. Au chapitre 23, il est question, le verset 2, des fois on se demande pourquoi il y a des choses aussi graphiques dans la Bible. Dieu n'est pas prude. Et là, il est question d'exclure de l'assemblée les eunuques. Ou ceux qui, les bâtards, c'est-à-dire ceux qui étaient nés de mariage illégitime, d'union illégitime. Tous ces gens étaient exclus. Et c'est vrai que dans l'ancienne alliance, plus on voulait s'approcher de Dieu, et plus ça devenait difficile. C'était comme un principe d'exclusion. Dans le temple, il y avait d'abord la cour des gentils ou cour des païens. Donc ceux qui n'étaient pas juifs ne pouvaient pas aller au-delà de cette limite, sinon c'était la peine de mort. Après ça, les femmes juives pouvaient aller dans la cour des femmes. Mais elles devaient s'arrêter à la cour des hommes. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive au saint lieu, qui était réservé aux prêtres de la tribu des Lévites. puis enfin, une fois par an, le grand prêtre pouvait entrer dans le Saint des Saints. Et encore une fois, Dieu veut nous faire comprendre les choses. Pourquoi cette exclusion, pourquoi cette difficulté à l'approcher? Parce qu'il est Dieu tout puissant, saint, créateur. Et il veut nous faire apprécier le sacrifice parfait de Jésus-Christ. Parce que maintenant, toutes ces restrictions qui se présentaient à l'homme qui recherchait Dieu ont disparu. Par le Seigneur, nous avons maintenant libre accès à Dieu. Grâce au sang de Jésus versé sur la croix. Éphésiens 2:18, car par lui nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Il n'y a plus de nuance ou de différence. Hébreux 10:19, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus. Donc, toutes ces informations de l'Ancien Testament devraient nous remplir d'allégresse et de dire « Merci Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Maintenant, je peux enfin venir en présence de Dieu. » Verset 3, il est question des fausses religions. Il est question du prophète Balaam, dont on a parlé, je crois, la semaine dernière encore. Ce qui est formidable, c'est que verset 6, l'Éternel ton Dieu n'a pas voulu écouter Balaam, donc, et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que l'Éternel ton Dieu t'aimait. Vous souvenez donc que le roi Balak demandait à Balaam de maudire les Israélites dont il avait peur, mais chaque fois que Balaam essayait de prononcer une malédiction, des paroles de bénédiction venaient à la bouche. Ça, c'est un grand principe dont nous pouvons remercier le Seigneur, c'est qu'il change les malédictions en bénédictions. Amen. Est-ce que vous avez fait l'expérience dans vos vies de choses que vous croyez être comme des choses terribles, mauvaises? Qui en fait se sont révélées être des bénédictions. On le rencontre plein de fois dans la Bible. Joseph dit à ses frères qu'il avait vendu à cette caravane dans l'espoir de le faire disparaître. Et vous connaissez l'histoire, grâce à lui qui était devenu le premier ministre d'Égypte, le peuple d'Israël peut être sauvé de la famine. Genèse 50:20, vous aviez formé le projet de me faire du mal, Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Romains 8, 28, nous savons bien sûr du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc un grand principe qui montre, là encore une fois, le cœur de Dieu pour nous. Ensuite, il est à partir du verset 10 ou 9, suivant la numérotation du décalage, je crois, il est question de pureté et d'hygiène. Et je vous laisse lire en détail le verset 10 à 14. Il est question de choses très pratiques. Mais à l'époque, c'était des choses nouvelles. Le fait de s'isoler pour aller aux toilettes, de recouvrir les excréments. Il n'y a rien de trop bas auquel Dieu ne s'intéresse et ne s'abaisse. Mais il voulait donner des règles de vie, des règles d'hygiène, de santé, pour protéger son peuple, pour assurer la venue de Christ. Ce qui est intéressant, c'est que ces règles d'hygiène ont été redécouvertes par la science, avec grand S, je dirais le monde, il y a seulement quelques centaines d'années. Les versets 15 ou 14 nous dit « L'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp sera donc saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'inconvenant et qu'il ne se détourne pas de toi. » Ça s'applique à nous tous, à l'Église. Le Seigneur est avec nous. Il marche avec nous. Il nous protège. Il veut livrer nos ennemis. Mais il s'attend à ce que nous soyons saints, séparés. Parce que s'il voit chez nous, dans nos cœurs, dans nos actes, des choses inconvenantes, il doit se détourner de nous. Donc c'est des règles de vie sanitaire, de vie physique, mais aussi de vie spirituelle, de vie morale. Ensuite, il est question de la pureté. Aucune prostitution en Israël. Il passe à des affaires financières aussi. Verset 19. Tu n'exigeras pas de ton frère aucun intérêt, ni pour de l'argent, ni pour des vivres, ni pour rien de ce qui se prête à intérêt. Il Donc on voit là aussi le souci des autres que le Seigneur veut que nous ayons. Il y a, au verset 20, il disait, on pouvait faire prêter de l'argent avec un intérêt pour un étranger, mais au sein du peuple de Dieu, il ne devait pas y avoir d'intérêt. Verset 21, il est question de vœux. Si on fait un vœu, il faut qu'on s'engage, à ce moment-là, il faut le respecter. On a vu ça déjà. Il est question ensuite d'une certaine protection sociale. On y reviendra un peu plus loin. Si on entrait dans la vigne d'un voisin, on pouvait manger quelques raisins, mais sans amener une camionnette pour la remplir. Hein. Lorsque la même chose avec le blé, on pouvait cueillir des épis, mais aussi ne fallait pas amener la faucille pour commencer à moissonner le blé du voisin. On voit donc qu'on traite de tous les sujets de la vie courante, de tout ce qui constituait la vie de l'époque. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus des coins de champs de blé ou des coins de vignes, en principe, quand on vit dans les villes. Mais le principe d'honnêteté demeure. Le principe de générosité demeure. Au chapitre 24, il est question d'un sujet qui est encore très douloureux de nos jours, le sujet du divorce. Premier verset, lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne plus obtenir sa faveur parce qu'il aura trouvé en elle quelque chose d'inconvenant, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Ensuite, il est question de dire que là, elle est libre d'aller se marier, mais que si ce nouveau mari la renvoie lui aussi, elle ne peut pas revenir au premier. Et en fait, Jésus va faire allusion à ces passages dans Matthieu 19. On peut s'y tourner, Matthieu 19, verset 7. Il y avait une grande controverse à l'époque. À propos de ce premier verset du chapitre 24 de Deutéronome, qui disait qu'en fait un mari pouvait écrire une lettre de divorce à sa femme. S'il avait trouvé quelque chose d'inconvenant. Qu'est-ce que ça voulait dire que quelque chose d'inconvenant? Il y avait deux écoles, l'école du rabbin Hillel, lui il était libéral, et dans son idée c'était tout ce qui pouvait déplaire à son mari. Si elle brûlait le rôti, il pouvait lui écrire sa petite note. L'autre école, c'était celle du rabbin Shammai, qui pensait que ça avait trait à un problème d'infidélité sexuelle, d'adultère, de relations sexuelles avant le mariage. Et donc, lorsque Jésus est à Jérusalem, en route pour Jérusalem, et qu'on lui demande pourquoi, verset 7, 19-7, pourquoi est-ce que Moïse a-t-il commandé de donner à la femme un acte de divorce et de la répudier? Et là, encore une fois, ils attendaient à le prendre au piège. Parce que s'il disait non, c'est pas vrai, il reniait la loi. S'il disait, en fonction de son amour, de sa compassion, non, il faut la garder, à ce moment-là, il était en faute aussi. Plutôt, je voulais dire, le deuxième problème, c'est s'il se montrait dur en disant qu'il fallait appliquer la loi, alors on disait, mais en fait, c'est pas quelqu'un qui est rempli d'amour pour les autres. Et sa réponse, toujours pleine de sagesse, il leur répond, c'est pas ce que voulait Dieu. Le prophète Malachi a dit que Dieu a horreur du divorce. Et il leur dit, verset 8, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Donc il leur envoyait la balle, en fait c'est parce que vos cœurs sont durs, vous n'avez pas d'amour. Et verset 9, je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour une infidélité et en épouse une autre, commet un adultère. C'est vrai que de nos jours, il y a autant de divorces dans l'Église qu'en dehors de l'Église. Et je crois qu'en dehors de l'infidélité prouvée, ou de situations intenables de brutalité continuelle, Dieu a toujours horreur du divorce. Je ne crois pas, j'en suis sûr. Pourquoi ? Parce que le divorce fait mal. C'est un deuil pour le mari et la femme. Et ça dévaste les enfants. Aujourd'hui, dans notre société, combien d'enfants viennent de couples divorcés? Notre société a tendance à affaiblir encore plus la famille. Les homosexuels commencent à militer pour le droit d'adopter des enfants. Dieu nous aime, il ne veut pas de la souffrance que ça entraîne. Verset 5 du chapitre 24, on en a parlé, c'est le fait qu'un homme nouvellement marié ne part pas à l'armée.
chapter 24, it talks about a newly wed man not needing for the army.
Parce que Dieu veut nous donner des bénédictions avant les batailles.
Because God wants to bless out his blessings upon us before the battle.
On en a parlé la semaine dernière. Il proscrit l'esclavage. Il interdit le kidnapping ou l'enlèvement.
Ça, c'est
verset 7. À partir du verset 10. On voit là aussi le sens de protection, ce qu'on dirait aujourd'hui la protection sociale. Ne pas venir saisir les gens chez eux. Verset 14 nous dit « Tu n'opprimeras pas le salarié pauvre et indigent ». Ou les migrants. Le verset suivant parle de la veuve et de l'orphelin. Donc on revient au chant, versets 19 à 21. En disant que si on moissonne, on doit laisser un peu de blé pour ceux qui n'ont rien à manger. De même pour les oliviers, de même pour la vigne. C'était un système de protection sociale très efficace. Qui est décrit dans le livre de Ruth, et qui avait l'avantage de ce que ceux qui étaient dans le besoin pouvaient travailler pour obtenir quelque chose. Ils avaient la dignité de leur travail. Ils n'étaient pas assis à rien faire sans horaire, toute la journée à recevoir des petites pièces. Les propriétaires les laissaient venir travailler après les autres et avoir la dignité en même temps, les ressources pour vivre. Aujourd'hui, vous avez peut-être des armoires ou des caves qui débordent de vêtements. Des vieux ordinateurs, de la musique, des cassettes, des choses. Souvent, surtout quand on est jeune, on dit tiens, je vais vendre mon ancien lecteur de CD. Jeune ou pas jeune, si vous avez un vieux truc, donnez-le plutôt que de le faire payer. C'est dans l'esprit de cet amour de Dieu qui aide, qui s'occupe de l'opprimé, du pauvre, de l'immigrant, de la veuve, de l'orphelin. Il est ensuite question de punir les coupables. Ça, c'est une idée qui n'est pas nouvelle, mais qu'on a abandonnée, punir les coupables. Chapitre 25, premier verset, on absoudra l'innocent et on condamnera le coupable. Amen. Si Dieu nous, le demander, c'est qu'il savait qu'il y avait un danger qu'on fasse l'inverse. Verset 4, on en a parlé dans 1 Corinthiens 9, pardon. Tu n'emmuselleras pas le bœuf quand il foulera le grain. Et donc là, c'est l'idée que si un animal fait un travail, lui aussi a droit à pouvoir manger du grain. Paul parle de ça dans 1 Corinthiens 9 et il l'applique au prédicateur qui a le droit d'avoir en retour de son travail spirituel des ressources matérielles. Et donc la règle, c'est que celui qui annonce l'évangile puisse vivre de l'évangile. Un autre aspect auquel on revient, c'est toujours celui de la protection des veuves. Avec une provision particulière, le mariage entre beau-frère et belle-sœur. C'était le cas où un homme est marié, il meurt sans avoir laissé d'enfant. Sa femme, un frère du défunt, se devait de prendre la femme de son frère pour l'épouser et lui donner un enfant. Est-ce que tout le monde a compris ou est-ce que c'est vraiment ce qu'on fait? Perdure. Mais c'était aussi pour que la femme veuve ne soit pas laissée à elle-même. Il y avait par ailleurs une protection pour les femmes qui étaient les dots. Avant de se marier, l'homme qui l'épousait devait donner à sa famille une dot. Et si un homme refusait d'épouser sa belle-sœur, ça s'est passé avec Onan dans la Bible. Verset 8, s'il persiste et dit « je ne veux pas la prendre », alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera sa sandale du pied et lui crachera au visage. Il fera une déclaration en ces termes, « Ainsi sera fait à l'homme qui ne veut pas édifier la maison de son frère. » Donc cet homme qui péchait en refusant d'épouser sa belle-sœur. Était publiquement humilié. On lui crachait dessus. Quelque part, on se rappelle qu'en fait, nous sommes tous pécheurs. Amen. Nous voyons être mis sur la place publique pour être dans la honte. On devrait nous cracher dessus. Et pourtant, ce n'est pas nous, c'est Jésus qui a fait ça à notre place. Il Il a accepté d'être ce qu'on appelle en Israël la maison du déchaussé. Lui qui est mort à notre place pour nos péchés. Ensuite, il est question de l'honnêteté, pas avoir deux poids, deux mesures. L'idée, c'était d'acheter avec un poids plus lourd et de vendre avec un poids plus léger pour acheter moins cher et vendre plus cher. Et donc l'idée, là encore une fois, c'est pas des poids et des éphas, l'idée c'est l'honnêteté dans nos relations, dans les affaires, dans notre honnêteté, dans nos rapports avec les autres. Et puis, verset 17, souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra pendant la route et coupa ton arrière-garde. Tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais là et fatigué, cela parce qu'ils ne craignaient pas Dieu. Lorsque l'Éternel ton Dieu, en te délivrant de tous tes ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage pour en prendre possession, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, ne l'oublie pas. En fait, il est question d'un épisode de l'Exode. Après les eaux de Massa et de Meriba, Amalek avait combattu les Israélites. Et Josué, le général de ses troupes, avait avancé, gagné, lorsque Moïse priait. Ses mains soutenues par Hur et Aaron, son frère. Amalek, c'est devenu, en fait, c'était un titre, puisque dans 1 Samuel 15, le roi Saül avait désobéi à Dieu en n'exterminant pas le roi d'Amalek, Agag. Alors qu'il devait le détruire complètement, Amalek, c'est un symbole de notre chair, de notre vieille nature. Et avec notre vieille nature, comme avec le roi Amalek, on ne peut pas faire de compromis. C'est bon, je te laisse boire un petit peu, mais pas trop. Et ça, c'est un principe aussi que nous avons déjà vu avec la chair, avec notre vieille nature de pécheur, il faut être radical. La chair, notre vieille nature, ne peut pas se soumettre à Dieu. Il y a une guerre entre la chair et l'esprit. Galates 5, 17, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair, ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Et donc, Amalek, arrive là en fin de ce chapitre comme un type de la chair. Avec laquelle on ne peut pas faire de compromis. Et pendant les versets que nous avons parcourus, il y a une expression qu'on a notée qui revient constamment, c'est « tu extirperas le mal du milieu de toi ». Danger de tolérer la tentation près de nous. Lorsque on laisse de mauvaises choses près de nous, dans nos vies, on s'habitue. On n'est plus choqué. On a un appartement, on a enlevé le papier peint, il y a plusieurs années de ça. Dans l'entrée et dans la salle à manger. Et on s'est habitué à ne plus avoir de papier peint. C'était horrible. Mais ça ne nous choquait plus. On a finalement fait le papier dans la salle à manger. C'était beau. Mais on a encore laissé le couloir avec ses taches et horribles. Un an ou deux. Et c'est la même chose dans nos vies morales. Si on laisse de vilaines choses elles ne nous choquent plus. Elles deviennent familières. On devient comme anesthésié. Le péché n'a plus l'air si horrible. Quelqu'un dit, traiter le mal à la légère, c'est mépriser l'œuvre rédemptive de Dieu. Dieu qui a donné son Fils unique pour nous racheter de nos péchés, l'échelle du traitement, l'ampleur du médicament devrait nous convaincre de la gravité du mal. S'il a fallu rien de moins que la mort du Fils de Dieu, parce que le péché, même si j'y suis habitué, c'est une chose horrible aux yeux de Dieu. Et donc il faut faire l'effort d'enlever toute forme de tentation dans nos vies. De cesser les mauvaises fréquentations peut-être. Et en dernier recours, comme l'avait fait Joseph, fuir devant la pression de la tentation. De Timothée 22, fuis les passions de la jeunesse, disait Paul à Timothée. Donc, on revient à ce Dieu d'amour, ce Dieu de pureté. Il veut que nous extirpions le mal du milieu de nous. Mais d'un autre côté, C'est ce Dieu de compassion et d'amour qui veut que nous ayons la même compassion pour les faibles, pour tout ce qui nous entoure. Alors là, peut-être que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on a survolé le journal. Et ce n'est pas le genre de sujet les plus faciles à traiter lorsqu'on passe d'un sujet à l'autre. Mais l'unité, c'est le caractère de Dieu. Il veut nous montrer la façon dont nous devons vivre pour lui plaire. Lui plaire, le servir et servir les autres. Pour terminer, j'aimerais citer Andrew Murray. Au niveau de notre amour pour les autres, et il disait simplement ceci: considérez que vous ne vivez que pour rendre heureux les autres. Mot à mot, enfin ça, ces mots étaient, je vais te les donner, c'était regard yourself as living only to make others happy. Est-ce que ça peut être notre prière aujourd'hui de faire que nos vies, ça soit pas de chercher notre bonheur, de chercher d'avoir plus, d'avoir ce qu'a l'autre. Mais considérer que ma vie, en fait, je suis là, pas pour moi, mais pour les autres, pour les rendre heureux. Ça aussi, c'est le cœur de Dieu, c'est le cœur de Jésus, qui est venu, qui est mort pour nos péchés, pour nous rendre saints, pour nous rendre heureux au sens réel du terme. Son désir, c'est de nous rendre saints, parce que c'est la voie du bonheur. Prions. Seigneur, toutes ces prescriptions, peuvent paraître lointaines. Seigneur, à travers elle, nous voulons voir ton cœur. Seigneur, nous le sentons qui est là, qui est présent. Tu veux nous éviter les erreurs. Tu veux nous protéger du mal. Mais tu nous instruis, parce que tu nous aimes tant, Seigneur. Tu es au milieu de nous. Merci de marcher ainsi avec nous, Seigneur. De nous donner la victoire contre nos ennemis. Mais Seigneur, aide-nous aussi à extirper le mal de nos vies. Que rien d'inconvenant ne puisse détourner ton regard de nous-mêmes, Seigneur. Seigneur, merci de nous garder de la sorte. Protège-nous toute cette semaine du mal. Et aide-nous à vivre comme si notre but c'était de rendre les autres heureux. Amen. Amen, merci. Pour nos amis visiteurs, on a toujours un temps après le culte où on prend des rafraîchissements et c'est l'occasion de vous rencontrer un peu. Rafraîchissement, c'est du café ou du thé. Hein. Que Dieu vous bénisse. Amen.